Bonjour à chacun et chacune, et je vous invite à reprendre un petit temps de prière pour confier ce moment de prédication au Seigneur. Oui, viens, viens Seigneur Jésus, viens vraiment ouvrir notre cœur pour que nous puissions te reconnaître aujourd'hui dans ta parole et sur nos routes. Amen. Alors cette semaine, pour beaucoup d'entre nous, c'était la semaine de reprise, l'occasion d'échanger des vœux pour cette nouvelle année avec toutes sortes de personnes, malgré les circonstances si complexes, si incertaines, si effrayantes même au niveau international, national et puis personnel pour plusieurs d'entre nous. Le début de l'année, c'est souvent l'occasion de faire le bilan sur l'année qui vient de se terminer et puis d'exprimer nos souhaits pour cette nouvelle année qui s'ouvre. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous attend en 2025. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté l'année dernière. Alors que tout le monde autour de moi reprenait son activité, je me suis retrouvée il y a exactement un an face à un grand vide. Le vide de mon activité professionnelle comme indépendante dans laquelle j'avais été plutôt bénie pendant 7 ans. Et malgré tous mes efforts, je voyais les portes qui se fermaient l'une après l'autre sans que d'autres ne s'ouvrent. Et je me sentais vraiment questionnée quant à ma place dans ce monde. Dès le début du mois de janvier, il y a un an, j'ai commencé à avoir des moments de grande tristesse. Et ce qui m'attendait en 2024, c'était une recherche d'emploi, parfois difficile, accompagnée d'une petite crise existentielle. Mais ce qui m'attendait aussi, c'était des promesses et des bénédictions du Seigneur tout au long de ce chemin. Et puis des partages inattendus avec tant et tant de mes frères et sœurs. Et vraiment, comme on en a parlé dans cette première partie, j'ai vraiment expérimenté ce partage à la fois avec Dieu et avec le prochain. Vraiment, ces deux socles. En 2024, j'ai simplement appris à accepter de ne pas savoir le chemin par lequel le Seigneur veut me faire passer. Accepter de ne pas contrôler ma vie, mais me laisser guider par Dieu qui m'aime et lui faire confiance au-delà des apparences et des circonstances. Une nouvelle année commence et nous ne savons pas le chemin par lequel le Seigneur veut nous faire passer, à la fois individuellement et comme Église. Mais sur cette route incertaine, nous savons qu'il sera là avec nous et que sa main ne nous lâchera pas, quoi qu'il arrive. Et je voulais vous proposer aujourd'hui de cheminer ensemble avec deux disciples sur la route qui va de Jérusalem au petit village d'Emmaüs et de voir comment le ressuscité nous rejoint sur nos routes incertaines avec beaucoup de pédagogie et de psychologie. C'est un texte qu'on trouve tout à la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 24, et il se situe le jour même de la résurrection. Des femmes sont allées au tombeau qu'elles ont trouvé vide. Mais les deux disciples qui quittent Jérusalem ne voient que la mort de celui en qui ils avaient mis tous leurs espoirs. La résurrection, ça prend du temps pour nous aussi aujourd'hui. Et comme ces deux disciples, face aux épreuves de la vie, on passe souvent par toutes sortes d'émotions et par différentes étapes. D'abord le désarroi devant ce qui nous tombe dessus, puis la tristesse de voir nos espoirs déçus, nos rêves s'écrouler. Et enfin, l'incompréhension de ce qui nous arrive. Et Jésus part justement de ces sentiments pour nous faire cheminer. Devant notre désarroi, il s'approche de nous et nous accompagne. Devant notre tristesse, il nous invite à raconter ce qui se passe dans nos vies. Et devant notre incompréhension, il vient ouvrir notre cœur et nos yeux. Au-delà des circonstances, à travers les circonstances, Jésus peut transformer notre cœur aveugle et déçu en cœur ouvert et brûlant. Et c'est vraiment ce que je nous souhaite de tout cœur à toutes et tous pour 2025. Jésus s'approche de nous et nous accompagne. Le même jour, deux de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. C'est donc le jour de la découverte du tombeau vide par les femmes, et deux des disciples fuient Jérusalem. Ils se séparent de tout le groupe des autres pour s'éloigner de cette mort de Jésus qui les fait tant souffrir. Luc nous écrit qu'ils s'entretenaient de ces événements, qu'ils échangeaient leurs réflexions, mais il ne s'agit évidemment pas du tout d'une discussion tranquille. Et les mots grecs utilisés veulent plutôt dire se disputer, débattre vivement. C'est un échange en circuit fermé dont ils n'arrivent plus vraiment à sortir. Début 2024, face au vide de mon activité, je me sentais moi aussi comme enfermée dans un désarroi que j'arrivais pas bien à exprimer et qui prenait toute la place. Je regardais désespérément les offres d'emploi et ça faisait qu'augmenter mon sentiment d'impuissance et d'inutilité. Notre désarroi peut être parfois si intense qu'il nous contrôle tout entier, qu'il nous empêche de lâcher prise et, comme ses disciples, de reconnaître Jésus quand il nous rejoint sur la route. Mais au cœur même de ce désarroi, Jésus s'approche de nous comme de ses disciples. Et Luc, avec énormément de délicatesse, choisit d'ailleurs de nous conter dans le détail la rencontre du ressuscité avec ces deux disciples qui sont un peu les plus perdus, les plus désorientés, eux qui ont fui et se sont séparés des autres, alors qu'il va consacrer qu'une seule ligne à la rencontre avec l'apôtre Pierre. Alors si aujourd'hui toi aussi, tu te sens perdu, tu te sens dérouté, sache que Jésus ressuscité s'approche de toi et t'accompagne. Et en nous rejoignant, Jésus vient rompre notre enfermement, c'est une première ouverture. Je vous invite à poursuivre le texte, on lit dans la version du Summer. Donc Jésus nous invite à raconter ce qui se passe dans nos vies. Il leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem, qui ne sachent pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ? Quoi donc ? Leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Et j'interromps là leur récit qu'on reprendra juste après. Jésus questionne les disciples. Il les invite à s'exprimer, à se raconter. Et leur première réaction est de s'arrêter et de prendre conscience de leur tristesse. Je me souviens que quand j'avais 20 ans, alors que je traversais une phase un peu difficile, j'étais allée me confier à une chrétienne plus âgée. Et la première chose qu'elle avait faite, c'était exactement ça aussi. C'était m'arrêter et me dire « Mets ta main sur ton ventre et respire profondément. » Comme un fin psychologue, Jésus aide les disciples à faire leur travail de deuil en leur offrant une oreille bienveillante devant laquelle ils peuvent se dire et s'écouter pour mieux se comprendre. C'est plus une fuite par rapport aux événements, mais en recul pour arrêter de les ressasser sans cesse et pouvoir les relire autrement. Alors cette oreille bienveillante, on peut la trouver nous aussi auprès de nos frères et sœurs. Et certaines de nos sœurs dans cette église sont même formées à la relation d'aide chrétienne au sein d'une association qui s'appelle justement En Chemin. Et voilà, on n'en a pas parlé dans cette première partie, c'est une association très discrète qui ne dépend pas directement de notre église, mais je voudrais ici vraiment les saluer, je sais que certaines sont présentes dans cette salle, et les remercier pour ce fin de travail d'écoute qu'elles offrent en toute discrétion et dont j'ai eu moi aussi l'occasion d'un peu bénéficier. se raconter à un autre nous ouvre déjà à d'autres perspectives. C'est le début d'un chemin de résurrection. Alors si en ce début d'année, toi aussi, tu te sens perdu, tu as besoin d'être écouté et accompagné, n'hésite pas en tout cas à te rapprocher de notre pasteur Jean-Haut ou à venir me parler, on pourra te mettre en contact avec cette association. Alors pour en revenir à nos disciples, qu'est-ce qu'ils racontent à Jésus? Alors d'abord, dans cette première partie du récit, ce sont leurs espoirs déçus. Cet homme, Jésus de Nazareth, qui parcourait les routes pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, pour guérir, pour relever, pour libérer, pour offrir à chaque homme et chaque femme ce regard ou cette parole qui donne d'aller de l'avant. Cet homme a été condamné à mort et cloué sur une croix. Cet homme est mort et avec lui, tous leurs espoirs. Combien d'espoirs déçus dans nos vies aussi. J'avais espéré obtenir ce travail, qu'il se verrait accorder le droit d'asile, qu'il guérirait et ne mourrait pas si jeune, que sa grossesse inattendue, après des années de deuil de ne pas pouvoir avoir d'enfant, ne se solderait pas par cette fausse couche, que, et cette nouvelle, je viens de l'apprendre aujourd'hui par Hernan, notre frère de Colombie, que ce pasteur colombien ne se ferait pas massacrer avec sa famille cette semaine. Mais après avoir dit leurs espoirs déçus, les disciples se rappellent aussi dans notre détail. Et on arrive ici au cœur du récit. Voici ce qu'ils racontent à Jésus. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont annoncé qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Nous voilà donc au cœur du récit, devant ce tombeau vide et cette annonce abracadabrante que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Et c'est aussi le point de retournement. À partir de là, la route des disciples va changer du tout au tout. Lorsque nous nous racontons à un autre et allons au bout de nos déceptions, reviennent souvent d'autres petits détails, de nouveaux chemins possibles qui s'ouvrent là où on croyait que tout était bouché. Début 2024, j'ai demandé à Wardia si je pouvais venir lui parler de la crise que je traversais. Et quand je suis sortie de chez elle, j'ai eu l'impression que l'horizon commençait à se dégager. Les disciples reconnaissent leur étonnement, leur incompréhension devant ce tombeau vide. Et c'est le point de départ pour que le ressuscité puisse ouvrir grand leur cœur et leurs yeux. Jésus vient ouvrir notre cœur et nos yeux. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. » Alors, les premières paroles de Jésus pour les disciples peuvent nous sembler un peu dures, mais je crois qu'on a parfois besoin, comme eux, d'un petit électrochoc pour nous réveiller. Et personnellement, après quelques mois difficiles, j'ai eu l'impression que Jésus me disait, comme à ses disciples et comme à Marthe, devant le tombeau de son frère Lazare, « Ah, femme sans intelligence, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Notre foi est si faible, c'est ce que m'écrivait il y a quelques mois Camille, face à la lenteur des progrès après son accident. Et moi aussi, je me suis découverte bien lente à croire. Malgré tout ce que le Seigneur avait déjà accompli dans ma vie, dans celle de mes frères et sœurs, malgré tous les récits des Écritures, la foi, c'est parfois cet effrayant pas dans le vide, quand la route ancienne a disparu et que la route à suivre est encore invisible. Un jour, alors que je désespérais de ne pas avoir été prise après un entretien dont j'avais l'impression qu'il s'était bien déroulé, un ami m'a dit ceci. « Tu ne sais pas le chemin par lequel le Seigneur veut te faire passer. Laisse-toi guider. C'est comme un jeu de piste. Là, il y a une impasse, alors il faut chercher ailleurs. » Et je vous partage cette image du jeu de piste parce qu'elle m'a vraiment éclairée et réveillée. Peu à peu, à partir de là, j'ai pu voir cette épreuve de la recherche d'emploi comme quelque chose de presque amusant. Alors Jésus, quelle surprise tu me réserves aujourd'hui. Et j'ai été aussi étonnée, même au-delà de mes espérances. Cette histoire de la lenteur à croire, c'est au fait l'histoire de toutes les Écritures. Celle de ces deux disciples qui butent sur la croix et la souffrance, mais aussi celle du peuple de l'Exode qui ne veut pas attendre les paroles de Moïse ou du peuple de l'exil qui refuse d'écouter les prophètes. Et je trouve ça plutôt rassurant. Ça permet de relier notre petite histoire à cette grande histoire qui nous dépasse, l'histoire du salut de Dieu offert malgré tout à toute sa création. La croix n'est ni la fin, ni un échec, mais une partie de cette histoire. Et à la suite du Messie, nous pouvons nous aussi traverser l'échec, traverser la souffrance, en gardant confiance dans les promesses de Dieu. Et nous pouvons aussi apprendre à mourir à nous-mêmes, à nos idées sur ce que devrait être notre vie pour accueillir l'inattendu de Dieu. La résurrection commence à faire son chemin dans le cœur de ses deux disciples et Jésus va les emmener encore plus loin. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà, il avait disparu. On arrive à Emmaüs, la destination prévue par les disciples. C'est apparemment la fin du voyage et puis c'est aussi la fin du jour. La route n'est pourtant pas finie. Jésus veut continuer sa route, concrètement, mais aussi symboliquement, continuer sa route avec ses disciples, le chemin qu'il a ouvert dans leur cœur, aller jusqu'au bout avec eux. Il ne force pas l'entrée, il attend qu'ils lui demandent avec insistance de rester. Et dans l'intimité de cette maison et de leur cœur, avec ce geste si simple, de partager le pain. Il ouvre un nouveau chemin, là où la route semblait s'arrêter. Ce partage du pain, nous venons de le vivre encore aujourd'hui à travers la Sainte Cène, un symbole de notre communion avec le ressuscité, mais aussi encore avec notre prochain, entre nous, le copain, c'est celui avec qui je partage mon pain. Ce pain qui se laisse fractionner pour se donner, comme nous le rappelait notre pasteur Jean-Haut, c'est aussi la mémoire du Christ qui, en mourant sur la croix, réconcilie l'humanité entière, la création entière avec son Dieu. Cette mort, d'abord impossible à comprendre pour les disciples, prend ici tout son sens. Et c'est là que leurs yeux s'ouvrent, ou littéralement sont ouverts par le Christ, qui, à l'instant même, disparaît. Le ressuscité est celui qui nous rejoint sur toutes nos routes, même quand nous ne le reconnaissons pas. Mais il est aussi celui qui toujours nous échappe, nous attend ailleurs, nous devance sur les chemins, présent dans nos cœurs, non pas par la vue, mais par la foi. Et ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Le cœur des disciples rencontrés dans l'intimité n'est plus aveugle et triste, mais ouvert et tout brûlant. Ils se lèvent, le verbe grec utilisé est le même que pour la résurrection, sur l'heure, sans même attendre que le jour se lève. Ils retournent à Jérusalem pour retrouver les autres disciples et pour raconter leur expérience de cette résurrection qui n'est pas seulement une histoire personnelle, mais celle de toute l'Église, des chrétiens de tout temps. Et une histoire que notre Église a pu vivre aussi fin 2024 avec Hugo qui, dès qu'il a été guéri, s'est aussi levé sur l'heure et le cœur tout brûlant pour retourner à sa vie et à son lycée. La résurrection, c'est vrai, ça prend du temps et cette route de Jérusalem à Emmaüs, ce chemin d'entre deux, nous ne cessons de le refaire encore et encore. Mais aujourd'hui encore, cette année encore, sur nos routes incertaines, Jésus s'approche de nous et nous accompagne. Il nous invite à relire nos vies avec lui et à la lumière de sa parole. Et il vient ouvrir notre cœur et nos yeux. Je propose de terminer par trois petites pistes, trois verbes pour continuer à cheminer cette année encore avec le ressuscité. Raconte, crois et partage. Raconte, dis, écris, dessine, peins, chante, danse tes tristesses, tes découragements, mais aussi tes joies, tes victoires et les petites résurrections sur ta route. Ton histoire peut être une bénédiction pour un frère ou une sœur. Crois, même si tu ne le vois pas. Avance avec cette confiance que le ressuscité fait route avec toi. Même si tu ne comprends pas le chemin par lequel tu passes, laisse Jésus te guider et te surprendre. Partage, invite Jésus chez toi, nourris-toi profondément de cette intimité avec lui. Laisse-le ouvrir doucement ton cœur et partage aussi bien sûr avec tes frères et sœurs des encouragements, des rires, des larmes, des prières, un repas, une balade. Les cultes, les agapes, les groupes de maisons, de jeunes, de croissance, les flambeaux, les repas 4x4, toutes les activités dont on a parlé liées à la sève, tant d'occasions de vivre ces trois verbes en Église cette année. Et si tu veux en savoir plus sur toutes ces activités, je t'invite encore à te rapprocher de notre pasteur Jean-Haut. Je propose de conclure en confiant cette année encore dans la prière au ressuscité. Oui, Seigneur, Christ ressuscité, nous nous tournons vers toi à l'aube de cette nouvelle année. Merci parce que tu connais la route et les souffrances de chacun et chacune et toujours tu t'approches pour nous accompagner. Merci d'avoir été jusqu'au bout pour nous et de nous emmener toujours plus loin. Et pardon pour nos cœurs bien lents à croire. Reste avec nous quand le soir tombe sur nos routes. Reste avec nous quand la route semble s'arrêter. Viens nous nourrir dans l'intimité. Transforme nos cœurs tristes et aveugles en cœurs ouverts et tout brûlants de toi. Amen.